Et c'est notre rendez-vous avec le journal de la rédaction et avec Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Plus de 87% des suffrages exprimés, un record.
La victoire hier de Vladimir Poutine à la présidentielle russe est saluée ce matin comme la preuve d'une union nationale, du moins par le Kremlin et ses alliés, ce qui n'est pas le cas, on le verra, de toutes les chancelleries. Dans le territoire assiégé et affamé de Gaza, l'armée israélienne a lancé ce matin un assaut sur le plus grand hôpital de l'enclave où sont réfugiés des milliers de civils. L'État hébreu soupçonne l'établissement de servir d'installation militaire au Hamas. Toujours à l'étranger, on se rendra également en Allemagne où l'industrie solaire a connu des jours meilleurs. On fera le point sur la crise à Mayotte où l'enceinte d'un stade d'un quartier populaire de l'île cristallise toujours la détresse des demandeurs d'asile comme la colère des habitants. Enfin, comment mieux faire connaître les troubles de la personnalité? On posera la question à notre invité aujourd'hui, Jean-Christophe Leroy, à l'occasion des Journées mondiales de la schizophrénie. Le Tsar est nu, vive le Tsar, avec plus de 87% des suffrages exprimés, un score jusque-là inégalé. Vladimir Poutine a donc été réélu hier, sans surprise, un véritable plébiscite aux airs démocratiques, mais qui ne saurait dresser sans doute autre chose en réalité que le portrait d'une Russie tout entière commandée par un homme devenu chef de guerre et qui, en près de 25 années au pouvoir, aura réussi à museler les médias, enchaîner l'opposition et transformer à sa guise la Constitution pour mieux cimenter son autorité. À 71 ans et à l'issue d'un scrutin sur mesure, Vladimir Poutine obtient ainsi un nouveau mandat de 6 ans et devrait à terme dépasser en longévité un certain Joseph Staline, dont il aura d'ailleurs en partie blanchi le legs en remettant à l'ordre du jour ses méthodes de répression draconienne et des restrictions toujours plus fortes à la liberté d'expression. Alors quand certains ce matin saluent cette victoire sans aucune forme d'objection, d'autres se montrent beaucoup plus modérés, dessinant ainsi Nathanaël Charbonnier une sorte de géopolitique de l'éloge.
Alors la réaction la plus représentative vient peut-être de Pologne qui dès hier soir estimait que l'élection présidentielle russe n'est pas légale, elle n'est ni libre ni équitable. Même tonalité pour les Américains pour qui ces élections sont à l'évidence, ni libre ni équitable, étant donné que Poutine emprisonne une partie de ses opposants et empêche les autres de se présenter. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, souligne que l'élection russe est basée sur la répression et l'intimidation. Les Britanniques condamnent, eux, le fait qu'en organisant des élections sur le territoire ukrainien, la Russie démontre qu'elle n'est pas intéressée dans la recherche d'une voie vers la paix. Les Allemands pointent, eux, le fait que le régime de Poutine est autoritaire, qu'il repose sur la censure, la répression et la violence. L'Allemagne dénonce une élection sans choix. La France prend acte du résultat attendu de l'élection présidentielle, une façon de dire qu'elle connaissait le résultat avant que l'élection ne se déroule. Il faut noter que la plupart de ces réactions critiques se font au niveau des chancelleries et pas au niveau des chefs d'État. Cela montre que l'élection n'a pas la même valeur et cela montre qu'en termes de crédibilité, personne n'est dupe des annonces de Moscou. Les Occidentaux critiquent, mais pas les grandes dictatures qui se réjouissent. Le président chinois, Xi Jinping, a donc félicité Vladimir Poutine pour sa réélection. Elle reflète, selon lui, le plein soutien des Russes à leur président, Pékin qui se dit convaincu que les relations entre les deux pays continueront à progresser à l'avenir. Autre soutien de poids, celui des Iraniens, le président Raïssi a félicité son homologue russe pour sa solide victoire à l'élection présidentielle.
Depuis sa petite république recluse de Corée du Nord, l'autocrate Kim Jong-un a lui supervisé ce matin le lancement de 3 missiles balistiques à courte portée, une énième provocation destinée à saluer à sa manière l'arrivée la veille en Corée du Sud du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, lequel est venu participer dans la péninsule au 3e sommet pour la démocratie prévu pour durer jusqu'à mercredi.
La bande de Gaza est désormais un cimetière à ciel ouvert après avoir été une prison à ciel ouvert.
Déclaration signée ce matin du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. De son côté, l'ONU estime qu'une personne sur deux est actuellement dans une situation alimentaire catastrophique. Quoi qu'il en soit, il n'aura fallu que quelques heures à peine aux autorités israéliennes, après avoir assuré tous les Palestiniens piégés à Rafah qu'ils seraient évacués avant toute opération militaire, pour lancer un assaut ce matin sur l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Cette fois-ci, les combats ont commencé peu avant l'aube. Une opération qualifiée de ciblée par l'État hébreu qui soupçonne l'État l'établissement de santé Christian Chéneau d'abriter des hauts gradés du Hamas.
Ce n'est pas la première fois que l'armée israélienne cible l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza. Le 15 novembre dernier, les soldats de l'État hébreu, épaulés par des blindés, étaient déjà entrés dans ce centre hospitalier, le plus grand de l'enclave palestinienne. Des munitions, des armes et des équipements militaires appartenant au Hamas, avait été à l'époque saisi, ce que le Hamas avait démenti. Les Israéliens, qui espéraient investir un centre de commandement du mouvement islamiste dissimulé dans l'établissement, avaient en revanche découvert un tunnel passant sous l'hôpital Al-Shifa. Depuis des mois, les chefs du Hamas sont traqués nuit et jour. Si plusieurs milliers de combattants palestiniens ont été tués ou blessés, la direction du mouvement semble encore intacte. Le chef du Hamas, dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, est toujours introuvable. Il continue d'ailleurs de piloter les discussions pour établir un cessez-le-feu et libérer les otages israéliens. Le chef de la branche armée du Hamas, les brigades Ezzedine al-Qassam, Mohamed Deif, n'a toujours pas lui aussi été éliminé, mais personne ne sait si ce personnage énigmatique est toujours en vie ou pas. Son adjoint Marwan Issa a été visé par une frappe israélienne alors qu'il se trouvait dans une cache souterraine dans le centre de la bande de Gaza, mais sa mort n'a pas été confirmée. Dans ses objectifs de guerre, Benjamin Netanyahou a clairement mis en avant l'élimination physique de la direction du Hamas, mais après 5 mois de bombardement, l'objectif est très loin d'être atteint, d'autant que son bureau politique en exil au Qatar est toujours aussi actif.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était au Caire hier pour y sceller un pacte, 7,4 milliards d'euros, pour obtenir du très autoritaire président Al-Sisi le blocage des flux migratoires, une aubaine évidemment pour l'Égypte, qui traverse actuellement la pire crise économique de son histoire, une défaite en revanche pour de très nombreuses ONG qui affirment avoir déjà recensé des arrestations arbitraires et des mauvais traitements infligés par les autorités égyptiennes aux migrants, ou quant à 3 mois des élections européennes, dont tous les sondages prédisent qu'elle devrait être marquée par une forte poussée de l'extrême droite. Les dirigeants des 27 se montrent soucieux d'afficher leur fermeté sur l'immigration irrégulière.
Direction l'Allemagne à présent, où l'une des plus importantes usines photovoltaïques d'Europe vient de stopper son activité.
Oui, située près de Dresde, à l'est, Meyer Burger était pourtant présentée comme l'entreprise du futur lors de son ouverture il y a 3 ans à peine. Sauf qu'entre-temps, la concurrence chinoise est passée par là et a fait s'effondrer les prix. Le groupe, qui tient aujourd'hui une L'Assemblée Générale Extraordinaire vient d'annoncer des pertes de 300 millions d'euros l'année dernière. Alors pour l'instant, l'arrêt de l'activité est encore provisoire, mais il pourrait tout aussi bien devenir définitif. Notre correspondant Sébastien Baer s'est rendu sur place. Reportage.
Il y a quelques jours, 5000 panneaux solaires étaient encore produits quotidiennement dans l'immense atelier qui s'étire sur 300 mètres. On n'entend plus désormais que le ronronnement de quelques machines et le souffle des appareils de ventilation. Entreposés sur des chariots, les derniers panneaux solaires, fabriqués avant l'arrêt de l'usine, attendent d'être expédiés.
Avant, les machines fonctionnaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Max Lange est l'un des 500 employés.
Quand on voit les chaînes à l'arrêt et qu'on ne fabrique plus rien, ça fait bizarre. On espérait tous que ça puisse continuer.
Depuis un an, la Chine inonde le marché européen de ses panneaux solaires. Des modules proposés 3 à 4 fois moins chers, se désole Ronald Müller, le directeur de la production.
C'est une concurrence déloyale. Ce n'est pas un jeu d'égal à égal. C'est injuste parce qu'on doit supporter tous les coûts de production d'un module solaire alors qu'ils sont subventionnés par l'État dans d'autres pays. Nos machines ont 3 ans. C'est vraiment un gaspillage d'argent.
Le fabricant envisage maintenant de renforcer son activité aux États-Unis où les conditions sont plus favorables. Mais Wolfram Günther, le ministre de l'énergie de la région de Saxe, espère encore une aide du gouvernement pour sauver l'entreprise.
Partout en Europe, on assiste à une explosion des installations de panneaux solaires. Alors détruire notre propre industrie nationale pour devenir presque à 100% dépendant de la Chine, ce n'est pas responsable. Il faut absolument agir vite.
Si aucune aide publique n'est annoncée d'ici la fin de semaine, l'usine de Freiberg devrait fermer définitivement ses portes, moins de 3 ans après son inauguration en grande pompe.
Un reportage signé Sébastien Baer.
Vous écoutez France Culture, il est 12h39 et c'est la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
À Mayotte, l'installation de migrants dans l'enceinte d'un stade, un quartier populaire à Mamoudzou, sorte de creuset à la fois de la détresse des demandeurs d'asile, mais aussi de la colère des Mahorais face à l'immigration illégale, avait été le point de départ il y a plusieurs mois déjà, on s'en souvient, d'une vaste crise sur l'archipel. Mi-janvier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé le démantèlement de ce camp. Les riverains avaient même donné au préfet une date butoir le 10 mars. Or, une semaine plus tard, donc, il reste encore sur place près de 350 déracinés qui dorment à même le sol, intoxiqués par les feux d'ordures et trempés par les pluies tropicales. Mathieu Laurent, bonjour.
Bonjour à tous.
Tout le week-end, ces hommes, ces femmes, ces enfants auraient été séquestrés par des collectifs de citoyens.
Oui, cette séquestration qui a pris fin hier en milieu d'après-midi a une fois de plus mis en danger ces demandeurs d'asile, victimes d'invectives, de menaces proférées par des membres de ces collectifs qui sèment ce qui s'apparente à une terreur de rue. Accès au camp cadenassé et une urgence, Thomas a bien failli tourner au drame. En essayant d'escalader les grilles, une femme enceinte a chuté, elle est toujours hospitalisée à l'heure qu'il est. Et puis les occupants de ce camp auront rencontré un peu plus de difficultés que d'habitude pour collecter des vivres, des produits de première nécessité. Inquiets, des riverains ont appelé à plusieurs reprises le commissariat de Mamoudzou. Réponse, effectif réduit sur place et surveillance via un drone qui a survolé le camp. Cette séquestration vient en effet s'ajouter à des semaines de barrages routiers, de heurts et de quantités de prises de parole d'élus locaux et nationaux sur l'immigration, toutes plus stigmatisantes les unes que les autres.
Alors je le disais, ce camp, Mathieu, cristallise donc toutes les tensions à Mayotte, mais aussi les impasses au regard des multiples opérations intentées par l'État.
Une brève chronologie suffit à mettre au jour inertie et instrumentalisation de la part des autorités. Le 24 janvier, le Premier ministre confirme le démantèlement du camp de Cavani pour le lendemain. Une partie a certes été détruite, mais il accueille encore des centaines de réfugiés, on vient de le dire. Les collectifs demandent leur expulsion immédiate, alors Gabriel Attal retarde et dit « on va accélérer ». Comment ne pas lire cette fois une surenchère entre les lignes de cette annonce qualifiée par l'intéressé de radicale? En effet, le 11 février, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce la fin du droit du sol à Mayotte. Et d'ajouter, nous comprenons ainsi littéralement l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel mahorais. Ce même jour, la ministre déléguée à l'Outre-mer avance que ces étrangers présents dans le stade de Cavani sont éligibles au droit d'asile, persécutés dans leur pays de guerre. Ce ne sont pas des clandestins, c'est le droit, fin de citation. Le droit qui oblige l'État français à les protéger, claquent les humanitaires à leur chevet.
Merci Mathieu Laurent.
Bruno Le Maire veut en finir avec l'État-providence.
Dans une interview fleuve au journal du dimanche, le ministre de l'économie veut passer à un modèle d'État protecteur, une subtilité de langage pour sortir, je cite, du mirage de la gratuité universelle, en clair dépenser moins, par exemple en resserrant davantage encore les conditions de l'assurance chômage, bref, une profession de foi aux allures de programme politique pour celui à qui l'on prête régulièrement des ambitions présidentielles. Parce qu'ils effraient, autant qu'ils fascinent tous les plus grands réalisateurs de Martin Scorsese à David Fincher, ont mis en scène les troubles de la personnalité au risque que les représentations de la schizophrénie au cinéma véhiculent parfois certains clichés stigmatisants. Et c'est ainsi que, depuis vendredi dernier jusqu'à samedi prochain, sont organisés à Paris les Squeeze Awards, une cérémonie de remise de prix parodique inspirée des Oscars, destinée à déconstruire donc ces images caricaturales et ainsi changer le regard sur cette pathologie souvent mal comprise. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, son organisateur Jean-Christophe Leroy, fondateur de l'association Positive Minders. Bonjour monsieur.
Bonjour Thomas.
Peut-être pour commencer, avant de s'intéresser plus particulièrement donc à cette cérémonie de remise de prix, depuis ce week-end jusqu'au 23 mars se tiennent donc les 21e journées de la schizophrénie organisées par votre association. Quel est l'objectif de ces journées ?
L'objectif, c'est déstigmatiser, mais également informer le public sur ce que c'est que la schizophrénie et quels en sont les symptômes, comment on fait pour se rétablir et surtout passer le message qu'on s'en rétablit.
Alors cette année, en particulier, vous avez donc souhaité mettre l'accent sur les questions liées aux représentations justement de la schizophrénie dans la culture populaire et notamment au cinéma, une manière d'épingler certains travers de ces représentations ou au contraire d'ailleurs de relever comment certains films offrent une représentation plus fine des enjeux de cette pathologie. Comment est née l'idée d'organiser une forme de cérémonie parodique, donc de remise de prix sur le modèle des Oscars ou des Césars?
Vous savez qu'une idée, ça se conçoit à plusieurs. Nous avons réuni tout un tas de personnes chez notre agence de communication, The Good Company, pour témoigner, parce que le témoignage, c'est ce qui fonctionne le mieux pour déstigmatiser. Donc la première chose, on a rencontré l'agence pour déstigmatiser et faire partir leurs clichés. Et très vite, la discussion s'est tournée autour du cinéma, parce que l'une des personnes a dit que au cinéma, les scénaristes manquent manquait parfois cruellement de créativité. Voilà, et c'est là qu'est née l'idée, et après toute l'aventure qui l'a accompagnée.
En quoi, justement, les images de la schizophrénie véhiculées par Fight Club ou Black Swan, par exemple, hein, tous deux nommés cette année, posent problème vis-à-vis de l'expérience vécue par les personnes atteintes de cette pathologie?
Alors, artistiquement, ça pose pas de problème. Chacun a le droit de créer exactement l'œuvre qu'il souhaite. En revanche, d'un point de vue pratique, une personne qui reçoit un diagnostic de schizophrénie va être tellement en contradiction avec l'image qu'elle-même a de la schizophrénie par les clichés populaires, c'est-à-dire souvent des dédoublements de personnalité, ce qui n'est pas du tout le cas, ou des phénomènes de violence, ce qui est très rare. Du coup, elle va pas accepter son diagnostic. Elle va, ce qu'on appelle, s'auto-stigmatiser. Or, dans la schizophrénie, pour avoir un rétablissement durable, l'intervention précoce est vraiment quelque chose de clé.
Aujourd'hui, cette maladie touche, je crois, 1% de la population française. Est-ce que la connaissance des différents symptômes qui peuvent manifester ce trouble progresse en France?
Alors, il y a une progression. Il y a une progression également de la déstigmatisation. On voit, quand on intervient dans les lycées, par exemple, que les personnes vont toujours évoquer les mêmes clichés. En revanche, quand on leur dit « Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un témoigner ?», ils disent assez rapidement « Oui, mais alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire ». Donc il y a quand même une meilleure compréhension par le témoignage, justement, par la remise en perspective de la vraie réalité de la schizophrénie.
Une dernière question, Jean-Christophe Leroy. Le mois dernier, une tribune collective appelait à organiser un débat pour éventuellement changer le nom de cette pathologie afin de la dissocier du trop grand nombre de stéréotypes véhiculés par le terme donc de schizophrène dans le langage courant. Quelle est votre position sur cette question?
Alors, elle est ambivalente. L'ambivalence est une des caractéristiques de la schizophrénie, mais même si j'en suis pas atteint, j'ai la tentation de dire oui, c'est très intéressant de changer le nom pour déstigmatiser. En revanche, ce qu'on s'aperçoit, c'est que il n'y a pas une schizophrénie, il y a plein de schizophrénies. Et que donc, aujourd'hui, on diagnostique la schizophrénie un petit peu comme, si je prends une image, une personne qui a le visage rouge, vous pouvez imaginer qu'elle a chaud ou qu'elle a une réaction d'urticaire ou peut-être qu'elle est en train d'étouffer. On est un peu la même chose dans la schizophrénie. Il y a plein d'origines de la schizophrénie. Il y a des maladies auto-immunes, il y a de la génétique, il y a de l'inflammation. Tout ça est regroupé sous un seul nom. Donc je ne sais pas si changer le nom par un autre serait profitable. Peut-être qu'il faudrait éclater le concept et trouver d'autres approches pour représenter la schizophrénie.
C'est bien noté.
En revanche, vous parlez de cette pétition. Il y a une deuxième pétition qui est en cours, qui est très importante pour que la France se mobilise autour de la santé mentale. C'est une initiative qui s'appelle Grande Cause Santé Mentale 2025, que vous retrouvez sur santémentale2025.org et qui est très importante pour faire bouger les choses en France. Durablement.
Et on terminera par ces mots. Merci Jean-Christophe Leroy, fondateur de l'association Positive Minders, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
C'est la 35e édition de la Semaine de la Presse et des Médias dans l'école et elle commence aujourd'hui.
Oui, organisée par le Centre pour l'éducation aux médias et l'information. L'objectif est de donner envie aux jeunes de s'intéresser à l'actualité, les faire réfléchir en rencontrant des journalistes, mais aussi en participant eux-mêmes à la création d'un journal ou d'une émission de radio. Au total, ce sont plus de 4,5 millions d'élèves qui partout en France, de l'école au lycée, vont ainsi s'engager dans ce projet avec un thème, l'info sur tous les fronts, ce qui inclut le journalisme en temps de guerre, mais aussi les questionnements du secteur lié à l'intelligence artificielle, sans oublier l'environnement comme nouveau champ d'information. De fait, le climat est aujourd'hui l'un des sujets les plus mobilisateurs, d'après une étude de l'ARCOM publiée la semaine dernière. Quand les moins de 25 ans s'informent, leur centre d'intérêt numéro 1, Aurore Richard, c'est l'écologie.
À la télévision, d'année en année, l'écologie est plus présente, dans les journaux, les émissions, les fictions. Mais ce n'est pas là que les jeunes s'informent sur ce thème. Ils vont plutôt sur les réseaux sociaux, d'après Isabelle Vera-Masson, historienne et sociologue des médias.
Ils vont, ce que j'appelle, glaner d'informations, en scrollant, en cherchant sur YouTube, comme ça un peu au hasard. Et pour certains qui sont plus intéressés, ils vont chercher sur les réseaux sociaux des informations et ils en trouvent parce qu'effectivement, que ce soit les médias pour les jeunes, comme les pastilles brutes par exemple, et puis surtout des plateformes ou des sites ou des lieux dans lesquels qui sont consacrés à l'environnement, il y en a beaucoup.
Et le fonctionnement même des réseaux sociaux, notamment avec les algorithmes, influence la réception de ces informations sur le climat.
Quand vous regardez les médias, vous pouvez trouver des points de vue différents, en particulier des points de vue contre. Alors que si vous êtes un jeune et que vous êtes écolo, que vous cherchez à vous intéresser à la question environnementale à travers les réseaux sociaux, vous avez probablement toutes les chances de ne rencontrer que des gens qui pensent comme vous et qui sont motivés par la question du climat. Les réseaux sociaux font que vous restez entre vous. C'est le principe de la bulle.
Cet intérêt pour l'actualité liée à l'écologie a plusieurs effets sur les jeunes, selon Isabelle Véramasson. Il peut créer une éco-anxiété, une angoisse liée aux menaces environnementales, mais il peut aussi les inciter à s'engager pour le climat.
On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi. Ensoleillé sur la plupart du territoire, à l'exception de la Franche-Comté, l'Alsace-Lorraine et les Alpes, où les précipitations pourront encore s'attarder. Quant aux températures, elles seront comprises entre 14 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.